Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur l'antenne d'Alternante FM. Je rappelle nos fréquences 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Et vous pouvez nous écouter également à travers notre site internet www.alternantefm.net. On se retrouve pour le numéro mensuel de Bouquins en Bretagne avec mon camarade Étienne. Nous avons aujourd'hui deux invités sur notre plateau. Jean-François Pasque, qui est un habitué, puisque c'est la troisième fois qu'il se retrouve sur ce plateau. On va parler de son livre publié il y a quelques mois, à toutes fins utiles aux éditions Ovadia. Et Étienne, je te laisse présenter notre second invité, Yves Jaouen, dont tu as lu les livres.
Oui, Yves Jaouen, qui était professeur d'histoire et géographie, qui est en retraite maintenant et qui a beaucoup travaillé sur 14-18. Donc on verra un petit peu 14-18 à Nantes, hein, la première guerre mondiale à Nantes, comment elle a été vécue par les Nantais et tous les problèmes qu'il y a eu dans la ville, qui sont finalement intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, c'est très bien. Alors on va commencer avec toi, Jean-François, on va passer à table. Ah. Alors on n'a dit pas trop d'humour
autour de cette table,
Jean-François, je me permets, hein, puisque je vais te tutoyer également, puisqu'on a eu l'occasion quand même de te rencontrer pour tes deux livres précédents. Il y avait Sans Suite, c'était le premier, ensuite il y a eu La Bascule. Aujourd'hui c'est la fin de la trilogie, hein, dans ce livre intitulé À toutes fins utiles, où tu mets en scène le héros de ces trois livres, qui est le capitaine Jean Goisset. Alors un mot pour dire que tu es flic, on va dire, hein. Tu es de la maison, donc tu connais bien ce dont tu écris dans ces livres. Et on va revenir un petit peu sur ces deux livres précédents où ce même personnage, le capitaine Goisset, apparaît.
Tout à fait. Donc effectivement, je suis policier. Hein, je suis capitaine de police. Je travaille toujours à Nantes depuis 5 ans. Et avant, j'ai travaillé en police judiciaire à Paris, en section criminelle. Donc effectivement, mon personnage, il s'appelle Jean Goisset. Il a dans le premier livre Sans Suite, c'est un personnage qui découvre un petit peu l'univers de la police judiciaire et il va être confronté à une certaine réalité, hein, qui au départ l'a fait rêver. Hein, il voulait rentrer dans ce monde-là pour vivre ses émotions, mais entre vouloir y rentrer, les vivre et puis les éprouver, c'est deux choses différentes. Donc il va se passer quelque chose dans sa vie, il va ressentir des choses. Donc c'est un peu le premier livre Sans Suite. C'est la découverte de ce monde-là par ce jeune lieutenant de police à l'époque qui va faire un peu la découverte de l'absurdité de la vie par rapport à ses enquêtes policières. Et puis après, il va prendre un petit peu d'assurance, il va évoluer, il va, sous le modèle un peu d'Albert Camus par rapport à la découverte de l'absurde, il va faire l'expérience de la révolte pour déboucher sur une histoire d'amour, et ça sera ce que j'essayais de mettre en œuvre dans La Bascule. Et donc dans À toutes fins utiles, on est dans la troisième phase de cette trilogie, donc où là l'histoire se passe sur Nantes.
Oui. Est-ce qu'il y a une volonté, on va peut-être revenir juste sur le nom Jean Goisset, tout le monde aura peut-être évaluer le jeu de mots, peut-être.
J'ai rien dit, moi.
Alors, j'angoissais. J'angoissais, le verbe angoisser à l'imparfait. Peut-être.
Ce qui correspond un peu au personnage aussi, qui a aussi ses angoisses, tout à fait légitimes, je dirais.
Tout à fait. Il a des nuits qui sont effectivement angoissantes. Voilà, maintenant, il va essayer de comprendre quelle est la source de ses angoisses, et ça va lui permettre de s'éveiller un petit peu et de rebondir et de mieux vivre ses angoisses.
Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée de sa part d'avoir quitté Paris pour venir s'installer à Nantes ?
On parle du narrateur, oui, ou oui. Du policier que je suis ?
Pourquoi pas les deux ?
Alors, dans le livre, le narrateur, effectivement, il cherche il a une famille, et c'est vrai que la vie à Paris devient oppressante un petit peu pour lui, hein, le monde. Donc à ce moment-là, il va vouloir offrir un autre cadre de vie à sa famille. Et c'est vrai que Nantes a une très belle cote à Paris de destination, hein, puisque c'est au niveau police, par exemple, c'est une des trois villes les plus demandées, hein, la première étant de mémoire Montpellier, la deuxième Bordeaux et la troisième Nantes. Hein, donc c'est vraiment très difficile et c'est pas au hasard. Il y a vraiment une très bonne qualité de vie. J'en ai fait l'expérience. Donc effectivement, je me suis basé un petit peu là-dessus pour essayer de rebondir un petit peu, poursuivre son activité qu'il avait commencé à Paris, mais sous un autre registre, avec un autre cadre de vie à Nantes.
Ouais. Le grand point positif d'ailleurs de ces livres, et le dernier qui est un peu aussi l'aboutissement, on voit l'évolution aussi dans ton écriture, c'est d'être écrit donc par quelqu'un du cru, donc il connaît bien le milieu, et l'importance ici de ce capitaine de police, c'est son côté très humain hein, en fait, hein, qui émerge hein, au fil de ces livres.
Alors là, c'est.
Alors, est-ce que c'est justement, pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est une exception dans la police ou pas ?
Je sais pas. Je suis pas le mieux placé pour parler de si c'est une exception ou une généralité. Moi, je peux parler de ce que j'éprouve, ce que je ressens, ce que j'essaye de décrire. Maintenant, mon côté, enfin, s'il y a un côté humaniste, j'en suis très heureux, très fier. En fait. Le problème, c'est que dans la police en général, on est victime un peu de... Et d'ailleurs, on en est un peu responsable. On est victime de préjugés un petit peu. Et je pense que si on lâchait un petit peu plus de choses sur notre ressenti, peut-être qu'on aurait une autre image au niveau des personnes. Maintenant, est-ce que notre but, c'est d'avoir une image ? Je suis pas forcément convaincu. Donc là, moi, effectivement, mon personnage, il a un côté où il cherche à comprendre les choses, il cherche à évoluer, et puis il a aussi ses revers, il a aussi ses doutes, il a ses angoisses, il a ses défauts également. Hein. Voilà, il est pas blanc, il est pas noir, il est un peu dans toutes les nuances.
Oui. Parce qu'on est quand même assez loin de certains personnages caricaturaux de flics hein, qu'on peut rencontrer soit dans les littératures ou au cinéma, à la télévision. Hein. Même.
Ah, tout à fait. Là, c'est une vraie volonté de ma part de sortir un petit peu des sentiers battus de toutes ces séries que je regarde très peu, des livres. Moi, j'ai voulu revenir un petit peu à ce qui, moi, m'a fait rêver. Donc, je lis pas beaucoup de polars, je ne regarde pas de séries de policières. Par contre, j'ai lu pratiquement tous les Simenon.
T'as pas vu Derrick?
Non. Ah, si, je me suis endormi comme tout le monde devant Derrick.
La routeur de Lindenstrasse, il y a un mort.
Voilà. Mais, moi, ce que je voulais, c'était remettre un petit peu l'homme au centre des choses et retrouver un peu l'atmosphère de Simenon, notamment, où on avait vraiment une étude de société, de voir un petit peu la psychologie des personnages, ouais. Leur interaction, et puis d'essayer de s'élever un petit peu et d'aller surtout en profondeur des choses et pas rester à l'aspect glauque, superficiel et dans la surenchère systématique qui où on perd du sens finalement.
Mais on redécouvre en ce moment Simenon qui finalement n'est pas que un auteur de Maigret.
Tout à fait.
Et je crois que c'est toute cette subtilité, c'est que c'est un véritable écrivain. Tout à fait. C'est pas simplement le fabricant d'un personnage.
Ah, tout à fait. Il y a notamment Lettre à mon juge, Lettre à sa mère, qui sont des petits bijoux.
Il a certainement écrit plus de livres autres que des Maigret.
Tout à fait.
C'est possible, tout à fait. Alors, on est là pour parler d'à toutes fins utiles. Rapidement, Jean-François, peut-être l'intrigue, hein, c'est bien sûr, il y a un crime sur Nantes.
Alors tout à fait. Alors donc c'est un capitaine de police qui vient d'arriver à Nantes et dans le cadre de son activité il va notamment sa spécialité, lui il est un peu chat noir. Hein. Il tape un petit peu toutes les enquêtes d'essai. Donc il intervient sur les enquêtes d'essai et la plupart du temps les enquêtes d'essai c'est pas forcément un homicide. Hein. On parle d'enquête d'essai à partir du moment où il y a une mort violente, principalement des suicides. Donc il mange beaucoup de cadavres. Hein. Et un jour il se trouve que le cadavre qu'il a, il n'est pas suicidé puisque ça relève d'un homicide volontaire. Et là, sa fonction s'arrête là puisque lui, il est un peu comme le chef des urgences, donc il vient poser un diagnostic, une évaluation et il va proposer une solution. La solution, c'est que ce soit la PJ qui intervienne par la suite pour mener l'enquête. Et lui, il y a des petites choses qui vont un peu le titiller par rapport à l'orientation de l'enquête. Il y a certains détails qui ont attiré son attention. Et l'enquête, dans le sens où elle va partir, en fait, lui, ça va pas lui convenir, donc il va se lancer un petit peu dans une contre-enquête.
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je voulais savoir. Oui, si c'était en fait, puisque normalement, il devrait le céder. C'est lui qui fait les premières, on va le voir, hein, ouais. Les premières démarches, les premières constatations. Et puis une fois qu'il a mis ça, il doit le céder à une autre équipe.
Tout à fait. C'est un rôle dont je m'inspire du quotidien. Hein. C'est le rôle un peu de l'officier de commandement qui est le premier maillon à intervenir sur place, qui va à partir d'une situation poser un diagnostic. problématique et qui va mettre une solution réalisable en jeu. Alors là, la solution réalisable, c'est, par le biais, bien entendu, de l'autorité judiciaire, le procureur de la République, et par sa hiérarchie, demander à ce que la PJ intervienne et mettre en œuvre les moyens. Et lui, à ce moment-là, se retire. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'une enquête de police. Il commence tout, il finit rien.
Oui, alors justement, est-ce que c'est... Bon, ça, c'est la réalité, mais est-ce que c'est frustrant quelque part, ou bon, comme c'est le cheminement normal de l'enquête, bon, bah, c'est rien de plus normal.
Alors, ça peut être frustrant si on n'a pas connu la fin de l'enquête. Là, en l'occurrence, pour mon personnage, c'est pas du tout une frustration. C'est comme c'est l'inverse de ce qu'il faisait auparavant quand il était en police judiciaire à Paris. Moi, je dirais que c'est même ça se compense et c'est très très bien parce que ça lui permet également, comme il a connu la difficulté de mener une enquête, ça permet d'aiguiser encore plus son diagnostic. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, il sait qu'il peut pas se permettre de se planter et surtout il sait qu'à partir du moment où il lance le diagnostic et la solution, il sait quelles conséquences ça engendre derrière puisqu'il l'a pratiqué lui-même. Donc ça lui permet de balayer très très large du point de départ jusqu'à la fin.
Alors j'ai une chose qui est très très intéressante dans ce livre de Jean-François, c'est dès le début, c'est la découverte donc de la scène de crime, hein, où l'intervention, alors avec tous les détails, alors on est loin des experts Miami peut-être, ou autre, il y a beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de détails, on voit que c'est écrit par quelqu'un qui s'y connaît, et on peut peut-être revenir un peu là-dessus, sans trop rentrer dans le livre, parce que on souhaite que les lecteurs, auditeurs soient nombreux pour le découvrir, mais peut-être en parallèle expliquer effectivement comment ça se passe lorsqu'on arrive justement sur une scène de crime.
Alors là, en
l'occurrence, quand on peut imaginer qu'il y a crime, parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de mort violente.
Oui. Voilà. Alors à partir du moment où nous on intervient sur une enquête d'essai, on cherche le crime. C'est-à-dire qu'on va ouvrir toutes les portes pour chercher le crime. Et au fur et à mesure, on va les refermer, de façon à ce que la mort violente devienne une évidente. C'est-à-dire que si on ne cherche pas l'homicide, on va passer à côté. Donc on part en pensant dès le départ que c'est un crime, et au fur et à mesure, il y a des évidences qui vont refermer tout ça. Et on n'intervient pas tout seul. Hein. Moi, à chaque fois que j'interviens sur ce genre de scène, j'ai des collègues, j'ai l'identité judiciaire, et j'ai surtout le médecin légiste. Donc voilà, il y a une sorte... chacun va apporter ses compétences. Moi, je vais apporter mes constatations extérieures sur l'environnement, sur les lieux, la position. Et le légiste, lui, va m'apporter son expertise au niveau médical, au niveau de médecine légale. On va confronter les deux et puis, à l'ensemble, ça nous donnera un tissu de vérité. On essaiera de s'approcher le plus proche. Donc voilà.
D'ailleurs, on voit dans le livre, il y a des rapports très amicaux entre le docteur Briand, qui est le médecin légiste, et puis le capitaine Goisset.
Tout à fait. Forcément, quand vous intervenez sur des situations comme ça qui sont extrêmes, il y a des rapports qui se créent. La difficulté, la dureté, on n'intervient pas comme ça sur des situations qui, sans y laisser, il faut y mettre de l'humain. C'est tellement difficile que là, on est obligé de se rapprocher un petit peu. Donc ça rapproche, et forcément, comme ça rapproche, ça crée de la complicité. Voilà.
Mais surtout, comme dans le livre à toutes fins utiles, la scène de crime, elle est assez horrible, hein, sur le meurtre de cette jeune femme. Bon, effectivement, il faut avoir les nerfs solides ou être habitué un petit peu quand même.
Alors être habitué, j'espère que je m'habituerai jamais, parce que c'est justement là où ça devient dangereux. Maintenant, vous savez, je dis toujours qu'il en faut de l'imagination pour que la fiction rejoigne la réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on a encore, au niveau de la réalité, elle a encore un peu d'avance sur la fiction. Donc effectivement, cette scène, elle est assez horrible. Bon, c'est une scène que j'ai recomposée. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pris deux scènes de crime et moi, je les ai déshabillées complètement. Je les ai rhabillées pour n'en faire qu'une. Mais effectivement, je m'appuie sur des éléments concrets. Voilà. Ça me permet aussi, moi, dans mon activité d'écriture, qui est pour moi un sas de décompression, d'évacuer justement tout le ressenti que je perçois sur ces scènes de crime ou ces enquêtes d'essai, que je ne peux pas évacuer parce que je suis dans un cadre très rigide au niveau de mon intervention de police, et l'écriture me permet justement de sortir un petit peu tout ça et de dire des choses que je peux pas dire dans une enquête de police.
Ça doit être dur de dormir la nuit, de retrouver le sommeil parfois quand tu assistes quand tu découvres un cadavre dans des conditions horribles ou...
Oui, c'est pas facile, mais il faut. Et là, on rentre dans la démarche de ce personnage, le capitaine Goisset, qui essaye de comprendre un petit peu ce qu'il ressent et qui va essayer de. Ça va peut-être être dur, ce que je veux dire, de valoriser un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la vie, elle est tellement fragile, tellement compliquée, tellement qu'on n'a pas le droit de... Enfin, à un moment, faut en profiter, faut croquer. Et lui, justement, va renverser ça, va rebondir dessus. On approche un petit peu la résilience ou des choses comme ça. Mais il va renverser, il va s'en servir. Ça va être une force pour lui. Il va savoir à quel point la vie est précieuse. Et ça va être... il faut en profiter au présent.
Et, ouais. c'est, voilà. et en plus, l'action qui dure sur quelques jours, hein, c'est un livre qui est...
Sur une semaine environ.
Sur une semaine, ouais. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand même très rapide. On se retrouve très souvent la nuit. Il y a aussi... le capitaine Goisset rend hommage aussi à tous ces gens là, qui travaillent la nuit
tout
comme
à
lui.
Fait.
Ces rencontres avec une vie autre. Hein, c'est aussi mis en valeur dans ce livre. Hein.
Tout à fait. C'est important pour moi de parler aussi de... On voit souvent dans les émissions, les séries, on voit toujours les grands flics. Mais il n'y a pas de grands flics. Les grands flics, c'est les petits flics du quotidien. C'est eux qui donnent du sens à l'action policière. Et je tenais absolument à parler de mes collègues, ceux qu'on voit jamais, ceux qui portent la tenue, qui vont faire les enquêtes, qui répondent aux interventions de police secours. C'est la police des gens et c'est cette police-là qui donne du sens et qui est malheureusement pas valorisé et qui devrait l'être un peu plus, un peu davantage, quoi.
Voilà. Jusqu'à la femme de ménage qui nettoie même le vomi dans le commissariat le matin après les beuveries de la veille des jeunes étudiants. Hein.
Ah. Alors, je vous remercie de préciser parce que je vois Étienne qui sourit et ça aurait pu prêter à confusion. Donc je vous remercie de préciser qu'il s'agit de beuveries d'étudiants.
Ouais.
Voilà. Donc c'est juste pour expliquer effectivement que le capitaine Goisset est très proche de tous ces gens, qu'ils soient dans la police ou pas, hein, qui travaillent la nuit et qu'ils côtoient. Il y a aussi des choses intéressantes, c'est ce rapport à la hiérarchie, ce rapport entre la police et la justice. Tout ça, ça entre aussi dans ce livre. Hein, faut le dire, faut l'évoquer un peu.
Tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas la police tout seul. Déjà au niveau police, hein, et puis après, on a des interlocuteurs, on a des partenaires. Donc le policier doit rendre compte à son. Il fait partie d'une hiérarchie policière. Hein. Ça rentre d'ailleurs. Ça a été. On vient d'avoir un nouveau code de déontologie il y a pas longtemps qui est commun avec la gendarmerie. Et c'est un des points qui est souligné, qui est mis en avant, c'est que le policier appartient à une chaîne hiérarchique. Donc il doit répondre à. Il a des devoirs par rapport à cette chaîne, il a un besoin de loyauté, de compte rendu vis-à-vis de sa hiérarchie, et puis après il a également d'autres partenaires comme l'autorité judiciaire, puisque c'est lui qui contrôle les pouvoirs du policier. Les pouvoirs du policier sont importants, et dans un système démocratique, à partir du moment où vous accordez des pouvoirs à quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui puisse les réguler pour éviter les risques d'arbitraire. C'est le rôle du procureur. C'est pour ça que le policier, il est dans sa hiérarchie, il est également avec les magistrats, et il est également avec d'autres partenaires. Alors, il y a de plus en plus, maintenant que les avocats rentrent chez nous pendant les gardes à vue, on a des rapports qui se créent aussi avec les avocats, et c'est bien parce qu'on a aussi des préjugés qui tombent.
Oui, justement, dans ce livre, il y a une petite équipe qui se forme, hein, puisque dans l'histoire, il y a un flic qui est mis en cause, hein, justement, dans le crime. Alors, est-il coupable ou innocent? Je laisse le soin au lecteur de le découvrir. Donc, se crée à côté du capitaine, un collègue à lui qui travaille un peu aussi dans l'ombre, une avocate, une future journaliste, forme une petite équipe qui va travailler sur cette affaire.
Tout à fait. Et là, c'était pareil. Il y a une petite symbolique. Les trois, les personnages, là, ce que je voulais essayer de faire apparaître, c'est que c'est des gens qui sont impliqués. Voilà. On voit trop de gens aujourd'hui qui sont indignés. Alors ça, oui, des indignés, on en a plein. Mais il faut que l'indignation, ça débouche sur quelque chose derrière. C'est-à-dire que s'indigner pour s'indigner, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une action derrière. Donc là, ces gens-là, ils constatent qu'il y a une injustice, une petite injustice. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une grosse injustice, mais il y a quelque chose qui les émeut, qui les touche. Et ils vont décider d'agir à leur petit niveau. Voilà. Donc c'est trois personnes qui sont impliquées, qui vont apporter leurs compétences diverses et qui vont former une petite équipe, une petite cellule, pour essayer de renverser un petit peu la normalité des choses.
Ouais. Et on voit aussi l'importance de ce que vous appelez dans votre métier les constats, hein, c'est-à-dire où il faut rédiger un texte, essayer de le faire le plus correctement possible, parce qu'il est quand même à la base de l'enquête qui va suivre derrière. Tu en parles beaucoup là, tu insistes aussi là-dessus.
Ouais. Les constatations, c'est vrai que c'est primordial. Moi, j'ai toujours des souvenirs des anciens qui m'ont dit, voilà, les constatations, quand elles sont elles sont loupées dès le départ, c'est toute l'enquête qui après est tronquée. Et les constats, vous pouvez pas les refaire 10 jours ou 15 jours ou 3 ans après quand vous êtes à la barre. Donc c'est effectivement les constats, là faut pas se planter. C'est là le rôle très important du capitaine Goisset dans cette troisième trilogie, où lui il est le premier interlocuteur et c'est lui qui constate les faits. Et là, très rapidement, il faut qu'il pose son diagnostic, et le diagnostic, il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà.
Oui, tout à fait. Il y a aussi une chose qui, ça c'est toujours dans le caractère très, très humain hein, du capitaine, c'est aussi le rapport qu'il peut avoir avec... il parle aussi beaucoup de l'intimité des victimes, je dirais, il ne les oublie pas, je dirais, hein, tout ce qu'il peut y avoir autour de la personne décédée.
Oui, tout à fait. Vous savez... le plus dur quand vous faites une enquête d'essai, c'est pas le cadavre. Le cadavre, il a plus rien à dire. Enfin, on le fait parler nous, mais lui, il a plus rien à dire. Le plus dur, c'est de partager la souffrance de la famille. Où là, on est complètement démunis. Moi, j'ai toujours une image parce que font fonctionner avec des images. Je dis toujours que la famille prend la morsure et le venin. Moi, je prends que la morsure. Mais au bout d'un moment, c'est pas sans faille. On intervient sur des situations qui sont vraiment très très difficiles. Et là, on partage l'intimité de la vie des gens, on les voit dans un moment qui est très difficile pour eux, et là il faut là ça s'apprend pas dans les écoles de police, là c'est l'homme qui parle et tous mes collègues, justement c'est là le rôle des effectifs de police, de la police des gens qui interviennent sur les interventions de police secours au quotidien, et ces gens-là ont des qualités humaines qui sont extraordinaires, et le problème c'est que personne n'en parle. Ouais. Souvent, ça retient pas l'actualité. On les met pas. C'est pas valorisant. C'est pas parlant. Évidemment, on préfère des choses qui soient beaucoup plus vendeurs, qui sont beaucoup plus vendeurs. Et c'est bien dommage. Donc, effectivement, moi, je tenais à remettre ça un petit peu en lumière. Et c'est pas rendre hommage, mais c'est de. Bon, une fois, j'avais un collègue qui m'avait dit en tenue, qui m'avait dit c'est dommage, lieutenant. À l'époque quand j'étais lieutenant, on parlera jamais de nous, les policiers du quotidien, ça intéresse personne et tout. Et je m'étais souvenu de ça et j'ai dit ouais, il faudrait qu'effectivement le montrer un petit peu les qualités humaines de ces gens-là qui voilà.
Autre question qui est en rapport avec le livre, est-ce que tu as eu l'occasion d'être confronté à un collègue mis en cause dans une affaire ou?
Alors, des collègues qui ont été mis en cause, oui, il y en a qui... Oui,
je... Alors là, je dirais dans une affaire criminelle, précisément, pour se coller au livre.
Ah, j'avoue, non, j'ai pas de souvenir précis. Maintenant, des collègues mis en cause, oui, quand j'étais notamment à Paris en PJ, j'ai eu quelques collègues qui ont été mis en examen, qui ont été notamment dans des affaires de stup où c'est toujours délicat hein, la barrière entre la légalité ou jusqu'où on peut aller, donc effectivement j'ai des collègues qui ont été un peu, puis surtout il y a eu un changement de méthode notamment avec j'en parle un petit peu dans le livre à toute fin utile, où avant on avait des informateurs et puis on les rétribuait un petit peu comme on l'entendait, et un jour le législateur a décidé un peu de mettre de l'ordre là-dedans, donc de passer avec une rétribution ou une déclaration de ces gens-là. Et effectivement, on a des anciens qui ont été habitués à travailler une certaine méthode. Il a fallu les habituer à travailler une nouvelle méthode. Le passage n'a pas toujours été efficient ou efficace. Donc ça a été très compliqué. J'ai des collègues qui sont... Et puis, le policier, il est comme tout être humain. Il est friable.
Ouais. Oui, je voudrais te poser une question parce que nous, on a reçu, il y a quelques années, on a reçu Dominique Labarrière sur le plateau par rapport à la mort de Berry Gauvois. Et donc l'enquête, pour lui, effectivement, c'était une enquête à pression, quoi. Est-ce que toi, tu as connu des exemples où il y a une pression qui fait que vous ne pouvez pas mener l'enquête comme vous le souhaitez? Ça arrive ou pas? Parce que c'est une fiction, peut-être.
Ah, moi, la pression, ça la met tout seul. Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir... Alors là encore, hein, je parle en tant qu'individu.
Oui, bien
sûr.
Je
suis pas là pour représenter la police nationale. Hein. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir la pression. La pression, j'ai plus tendance à me la mettre tout seul, de façon à pas louper quelque chose. Maintenant, on peut imaginer qu'il y ait des enquêtes qui soient plus délicates que d'autres, ou les conséquences médiatiques notamment soient différentes. J'ai pas eu l'occasion de travailler là-dessus. Franchement, donc je pourrais pas me positionner. J'imagine que effectivement, il y a des attentions qui sont portées par rapport à la situation. Maintenant, on reste à constater. On est sur des constatations, donc on reste à constater des choses qui sont objectives, qui ne peuvent pas donner matière à discussion. Alors après, effectivement, qu'on nous demande vraiment de trouver quelque chose ou d'aller plus chercher. Moi, j'ai jamais connu ça, heureusement, et je peux pas vous en dire plus là-dessus.
Ah oui.
Jean-François, aussi le fait d'écrire, donc tu es dans la partie, tu es flic, tu écris sur les flics, sur des enquêtes. Forcément, bah tu ne peux pas tout romancer parce que je pense qu'il y a aussi tes collègues qui sont à l'affût de voir ce que tu vas peut-être enjoliver ou tu vas aller trop loin. Donc là aussi, il y a une pression dans l'écriture.
Là encore, la pression, je me la mets tout seul. Et puis, vous savez, la pression, c'est ce qui transforme un peu le carbone graphique en carbone diamant. Hein. S'il n'y avait pas de pression, le carbone ne deviendrait pas diamant. Donc, quelque part, la pression, ben, il faut savoir la prendre. Il y en a qui la boivent.
Mais l'écriture, c'est un espace de liberté aussi. Hein.
Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, le piège pour moi, c'est justement de tomber dans la facilité de faire un récit. Mmh. Là, le but, c'est pas de faire un récit, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à des situations réelles, de s'élever un petit peu, de décortiquer ce que je vis au quotidien et de le reconstruire et d'apporter une part de création artistique et surtout de pas cracher dans la soupe, de pas tomber dans la vulgarisation, de pas tomber dans la facilité et surtout de protéger les collègues, mais si mes collègues s'y retrouvent, tant mieux. Maintenant, ce que je veux pas, c'est qu'ils s'y retrouvent individuellement. Donc, je fais en sorte de pas que ça. Alors, évidemment, je me base sur des collègues, des situations.
Oui,
il y a de la recomposition. Mais personne ne pourra dire. S'il y en a qui s'y reconnaissent personnellement, j'en suis fort désolé et je les trouve un petit peu, si vous me permettez, un peu prétentieux.
Il y a un retour justement de la part de tes collègues, de ta hiérarchie, peut-être. Je sais pas.
Ma hiérarchie, je pense qu'elle l'a lu. J'ai aucun souci là-dessus. Il me laisse faire. J'ai une totale liberté et j'apprécie énormément cette liberté-là de pouvoir écrire comme j'entends. Maintenant, je suis soumis à des obligations hein, et je les respecte. Je suis très attaché là-dessus. Hein. Devoir de réserve, secret professionnel, voilà. Et puis encore une fois, le but c'est pas de cracher dans la soupe. Moi, ça la rend beaucoup moins bonne, hein, comme on dit chez nous. Une fois qu'on a craché dedans.
C'est quand même d'abord d'écrire pour toi le but.
Ah bah moi j'ai un vrai plaisir d'écrire. J'ai un vrai plaisir d'écrire. Le plaisir de l'écriture à l'instant présent, voilà, c'est un vrai bonheur. Après, de le faire partager, c'est une autre chose, mais...
On a tous ça.
Ça transparaît dans ce livre. Alors, j'ai volontairement pas voulu trop rentrer en détail dans le livre. On a mis en parallèle des choses que l'on retrouve dans ce livre. Ce livre, c'est la fin d'une trilogie, mais je pense que c'est pas la fin de la carrière de Jean-François Pasque dans l'écriture.
Alors ben non, comme les chiens hein, qui mordent, les chiens qui mordent, ils mordra. Mmh. Donc c'est un peu pareil. Une fois qu'on y a goûté, je dis pas que ça devient une addiction parce que mais il y a un vrai plaisir et donc effectivement je vais poursuivre. Là je vais soumettre, je pense à la fin du mois, un manuscrit à mon éditeur qui sera un recueil de nouvelles et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de sortir un peu de la facilité, enfin du risque de facilité d'écrire sur la police. Donc je voudrais peut-être que par la suite, il y aura un roman différent, peut-être...
Qui sera alternante.
Peut-être sur... alternante, je sais pas.
Avec les papilles du micro, là.
Mais voilà, effectivement, je vais poursuivre, j'en ai besoin. Ça fait partie de mon quotidien. Et puis, ouais. Et puis ça sera tout le même esprit, un peu d'expérience.
Alors ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais on aurait pu passer encore plus de temps. Hein, mais on va quand même donner la priorité aussi à notre second invité. C'était dans ce livre, par rapport aux deux autres, il y a quand même l'auteur et le capitaine Goisset. Bon, ce livre a beaucoup plus de confidences, on les sent beaucoup plus mûrs, avoir envie aussi d'exprimer plus de choses que dans les deux livres précédents.
Je pense que le narrateur il est à la fin d'une expérience et on peut faire un parallèle par rapport à mon expérience à moi d'écriture. Effectivement, au départ, mon narrateur il se cherche. Moi, je me suis cherché en écriture. Dans le deuxième, il s'est affirmé, mais en s'affirmant, il s'est mis aussi beaucoup de barrières parce qu'il avait envie enfin, je parle pour là cette fois de l'auteur. J'avais vraiment envie d'écrire quelque chose de très abouti. Et finalement, peut-être que je me mettais trop de barrières. Et finalement, le troisième, avec l'expérience, il s'est libéré un petit peu, donc comme mon personnage un petit peu, donc il se libère de ce qu'il ressent. Bon, c'est vrai, je reconnais, il y a un vrai parallèle entre Jean-François Pasque, Jean Goisset, le personnage, le narrateur, le flic, voilà. Maintenant, j'en joue un petit peu, je fais dans la transposition, la substitution, la compensation, ça sera à vous de juger ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Moi, je saurais m'en protéger en vous disant que, bien sûr, que tout est vrai et rien n'est vrai. Voilà.
Voilà, ben c'est tout est dit. Hein, c'est très bien dit. Hein. Alors c'était Jean-François Pasque pour qui nous a parlé de son dernier livre À toutes fins utiles aux éditions. C'est les éditions Ovadia. Merci Jean-François.
C'est moi qui vous remercie.
Alors on va peut-être s'octroyer une petite pause musicale et puis on va retrouver Étienne en compagnie de Dave Jaouen dans la seconde partie. À tout de suite. On se retrouve dans Bouquins en Bretagne. C'est un extrait du ballet symphonique celtique Tristan et Iseu de notre ami Alain Simon. Le spectacle avait lieu hier soir. J'ai eu la chance d'y assister au Zénith de Nantes devant un public nombreux. C'était la première de ce ballet symphonique qui était extraordinaire. On va féliciter Alain et toute son équipe pour l'émotion qu'ils ont pu nous communiquer dans ce spectacle. Et on a écouté un extrait à l'instant de la chanteuse Sioba Noen qui est également harpiste et qui est dans ce ballet la voix d'Iseu. Et puis pour terminer, on écoutera en générique de fin encore un extrait de ce ballet symphonique. Et il y a effectivement aussi un album à la clé. Voilà. Étienne.
Oui, alors ce que tu oublies de dire, c'est que Daniel, il a emmené madame hier aux élites et ils étaient au premier rang.
Voilà. Ça, mais je n'étais pas invité. Hein,
non.
J'ai payé ma place comme tout le monde. Voilà.
Bien. Alors on est maintenant avec Yves Jaouen. On va être dans une autre enquête, hein, des enquêtes en 14-18. Une trilogie à 4 livres, c'est un petit peu différent. Je blague un petit peu, mais Yves Jaouen, c'est la première fois que nous nous rencontrons au micro d'Alternante. Alors d'abord, qui êtes-vous ?
Alors, je suis professeur d'histoire à la retraite depuis 2009. Et voilà, j'ai une passion pour l'histoire, notamment pour la période de la Première Guerre mondiale.
Ben on voit ça, ouais.
Je consacre tout mon temps aux archives municipales et aux archives départementales. Et là, je me suis passionné pour cette période pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un vieux souvenir de mes études. Mmh. J'avais passé une année de recherche en maîtrise d'histoire. Et je m'étais promis que plus tard, ben, je retournerais, je trouverais une occasion de retourner aux archives 40 ans plus tard. Voilà, et donc c'est en 2009, j'ai attendu patiemment la retraite pour me replonger dans les archives. Et puis, c'est la Première Guerre mondiale qui m'a intéressé pour plusieurs raisons. Parce que j'ai enseigné la Première Guerre mondiale à mes élèves, et puis je regardais ces élèves qui étaient devant moi, ces élèves de terminale qui avaient 17 ans, 18 ans, et je me disais, mais ils auraient pu être dans les tranchées. Ouais. Et ce que je leur enseignais, c'était une tragédie, l'une des plus grandes tragédies pour moi de l'histoire de France. Il faut imaginer 1 400 000 morts. Ouais. Ça fait 900 morts par jour. Ouais. 900 morts par jour pendant 51 mois et une semaine. Donc voilà ce qui m'a passionné. Je me dis, mais comment ces hommes-là qui étaient dans les tranchées ont pu tenir pendant 4 ans, vivre au contact de l'horreur quotidiennement, au moment des grandes offensives. Donc ça, voilà l'une des questions qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont passionné. Et j'ai voulu entrer dans cette recherche. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait finalement très peu de choses d'écrire. C'était un blanc là sur l'histoire de Nantes. Très peu de choses.
Ah, sur l'histoire de Nantes, oui.
Sur l'histoire de Nantes pendant la Première Guerre mondiale, il y avait pratiquement rien.
Mais Nantes n'a pas non plus été impactée par la guerre d'une façon militaire.
Non.
Donc ça joue certainement.
Mais, les historiens considèrent maintenant qu'il y a deux fronts. Il y a le front de l'avant. Alors, on a beaucoup parlé des combattants, on a beaucoup parlé des tranchées, mais on considère aussi qu'il y a le front de l'arrière. On a repris une expression britannique de home front, le front de l'arrière, et on parle de plus en plus du front de l'arrière. Je lisais hier un ouvrage d'un grand historien français qui s'appelle Jean-Jacques Becker, qui était grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui écrivait que un ouvrier dans les usines d'armement était peut-être aussi important, et même peut-être plus important qu'un combattant dans les tranchées.
Juste tu coupes une seconde, puisqu'on a fait le même métier, on insistait quand même pas mal sur les munitionnettes.
Oui, effectivement.
C'était pas oublié, en tout cas, dans les cours qu'on avait.
Oui, mais l'arrière a été complètement mobilisé. On est dans une guerre totale. Ce que je voudrais dire, c'est que on change complètement d'échelle avec la Première Guerre mondiale. Ouais. En 1870, on a mobilisé en gros 300 000 hommes. Et l'arrière est coupé de l'avant, est coupé des combattants. Et puis là, on va mobiliser, déjà en 1914, près de 3 millions d'hommes et 8 millions, au total, un peu plus de 8 millions d'hommes ont été mobilisés entre 1914 et 1918. Ouais. Et donc, toutes les familles sont concernées directement par cette mobilisation. Ouais. On ne peut pas rester indifférent à l'arrière, à ce qui se passe à l'avant. Alors tout le monde est mobilisé, c'est une guerre totale, et c'est vrai qu'à Nantes, par exemple, il y a 82 usines d'armement, il y a plus de 7000 femmes qui travaillent dans les usines d'armement.
Tu mets d'ailleurs guerre industrielle dans une je ne sais plus laquelle.
Oui, c'est effectivement une guerre industrielle. Et d'ailleurs, je veux dire à ce propos que les historiens considèrent maintenant qu'il y a deux phases dans la guerre. Autrefois, on disait, bon, 14, c'est la guerre de mouvement, ensuite la guerre d'usure. Hein. Ouais. Le mot est employé. D'ailleurs, dès la fin de 1914, on s'enterre dans les tranchées. On va reprendre la guerre de mouvement à partir de 1918. Mais aujourd'hui, finalement, on fait la coupure suivante, 1914-1916, guerre classique. Hein, on envoie des hommes massivement dans des offensives, offensives à outrance. Et puis, à partir de 1916, on entre dans une guerre industrielle, justement. Et on montre que le rôle qui était extrêmement important, c'est tous les services militaires d'approvisionnement du front. Les trains qu'il a fallu acheminer vers le front. On tirait, je pense, à la bataille de Verdun, en 2 jours, on a tiré plusieurs millions d'obus. Ouais. Donc il fallait acheminer des quantités de matériel militaire, il fallait acheminer aussi le ravitaillement pour les soldats. Donc il y avait toute une industrie à l'arrière, au service de ces millions de combattants.
Mais l'industrie, c'est la production en masse, et puis il y a aussi une production en masse de cadavres. Alors est-ce qu'on ne peut pas faire le lien, parce qu'elle emploie le même mot?
Oui.
Une industrie de la mort, pratiquement.
C'est une industrie, effectivement, de la mort. D'ailleurs, les principales victimes de cette guerre, c'était les victimes de l'artillerie. La grande majorité de ceux qui ont été tués par les tirs d'artillerie.
Ouais. Ce qui est particulier dans certaines lettres qu'on a de poilus, ils parlent de leurs camarades qui sont morts noyés dans la terre.
Oui, effectivement.
C'est absolument effrayant.
Oui.
Mais puisqu'on est avec ces soldats, on va franchir quelques étapes. Alors d'abord, je précise bien quand même que là, Yves Jaouen, aux éditions Opéra, il a 4 livres qui sortent simultanément.
Oui, 4 livres.
C'est une question que je me pose, à laquelle tu répondras peut-être tout à l'heure si tu veux. Pourquoi pas un gros livre qui souvent pose son spécialiste plutôt que 4 livres qui sont très accessibles, 7, 8 euros, 10 euros. Est-ce que c'est une démarche volontaire?
Oui, c'est une démarche volontaire parce que les archives sont tout à fait dispersées. Il faudrait écrire un ouvrage sur l'histoire de la Première Guerre mondiale à Nantes, mais il aurait fallu trouver une masse d'archives qui permettent, ouais, en une seule fois d'écrire ce livre. Donc j'ai partagé mon temps entre les archives municipales et les archives départementales. Je suis tombé sur, ouais, des liasses quelquefois intéressantes, sur les carnets de guerre comme le oui, carnet de guerre de Maurice Digot.
Alors parlons-en de Maurice Digot, et puis après on reviendra un, oui, petit peu sur le poilu, comment lui il vit la guerre et ce qu'il ressent quand il revient en permission, parce qu'en fait c'est un peu là aussi où on va être dans les trains des permissionnaires dans la crise de 1917, qui est assez extraordinaire, oui, sur le comportement des Nantais. Mais on vient peut-être sur ce témoin, effectivement ça va être très intéressant de trouver un petit peu là un témoignage assez ample sur à partir de quelqu'un qui a vécu ici dans notre quartier, qui au cœur, il y a une espèce de crédibilité qui peut apparaître puisqu'on est dans la même ville, on peut même connaître finalement sa famille,
son, oui, j'aurais pu même le rencontrer parce que je sais qu'il est mort, enfin il a vécu les dernières années de sa vie au Moutier-en-Ré, et c'est là où j'ai passé mes vacances dans les années 60. Il est décédé en 1967.
Ah oui.
Et je me suis aperçu qu'il y a même une rue qui porte son nom au Moutier-en-Ré, la rue Maurice Digot. Alors j'ai enquêté pour savoir, ouais, pour quelle raison on a donné le nom d'une rue à Maurice Digot.
L'enquête, ça intéresse Jean-François, l'enquête. Alors pourquoi on a donné ce nom?
Je ne sais pas, justement. Je vais essayer de commencer. Oui, je vais enquêter sur ce sujet.
Alors qu'est-ce qu'il dit, lui? Il part à la guerre en 1915.
Alors il part à la guerre en 1914. D'abord, il avait 14. Été réformé en 1913. Mais je voudrais dire d'abord que son témoignage ne regarde que lui. Je veux dire qu'il, oui, ne faut pas généraliser à partir de son cas. Lui a condamné la guerre, ce qui n'est pas le cas au départ. Alors il est mobilisé en octobre 1914, il va faire ses classes à Carcassonne, il part résolu comme la plupart des, ouais, soldats en 1914, simplement parce qu'on pense que la guerre ne va pas durer. On part pour quelques semaines, ouais, quelques mois à la rigueur, mais pas plus. Donc voilà, on part résolu pour faire son devoir. Et puis, au fur et à mesure que les années s'écoulent, Maurice Digot prend toute l'ampleur de la tragédie là, qu'est la guerre. Il va, en 1915, connaître une première offensive qui est terrible, hein, c'est celle de Champagne, le 25 septembre, qui commence le 25 septembre 1915. Il y a énormément de tués. Les cadavres commencent à s'accumuler. C'est une grande offensive qui est un échec. Et là, il est comme ses camarades soldats, il se fait engueuler littéralement par les officiers supérieurs, hein, qui considèrent que les troupes ont fait preuve de lâcheté. Ça rappelle un film de Kubrick. Et eh bien, des soldats sont fusillés pour l'exemple.
Fusillés pour l'exemple.
Donc, il raconte cela. En 1916... il est engagé dans la bataille de la Somme, et là il est blessé dès le premier jour de l'offensive. Bon, en 1917, il est au Chemin des Dames. Il fait l'offensive du Chemin des Dames le 16 avril 1917. Il est témoin des mutineries. Il va, en 1918, il se retrouve à Verdun, où il déterre des cadavres, ouais, sur un champ, des centaines et des centaines de cadavres. Enfin, c'est un travail épouvantable, ouais, qu'il est obligé de faire. Il est gazé. Ensuite, il va attraper la grippe espagnole. C'est une véritable descente aux enfers qu'il raconte.
Il a tout gagné, lui.
Ah oui, il a tout gagné. Il a tout gagné. Et le 11 novembre 1918, il lance un cri. Il est à Nantes. Il se fait soigner. Et c'est un cri de haine contre la guerre, là, ouais, qui lance. Donc il part résolu en 1914. Et puis progressivement, c'est vraiment une descente aux enfers qu'il raconte. Il a très très mal vécu cette guerre.
Il avait quoi comme formation,
Il était architecte, dessinateur. Mais je crois que c'est surtout ses convictions de chrétien. C'est un homme qui est un homme de foi. Il y a beaucoup de discussions avec un prêtre qui s'appelle Chardin. Et là, l'horreur qu'il vit, pour lui, c'est insupportable. C'est insupportable par rapport à ses convictions.
Mmh. Mais on va peut-être, parce que sinon, l'émission va durer 3 heures. Hein. Non, mais c'est vrai que 14-18, c'est un sujet absolument extraordinaire. On va peut-être descendre un petit peu maintenant d'un cran et venir à Nantes. Parce oui. que dans... Alors je donne les titres. Hein, tu as un livre qui s'appelle alors « Les écoles publiques nantaises mm-hmm. hein, », 1914-1919. On va s'arrêter un peu sur celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les écoles à partir de 1914? Les instituteurs sont au front
Oui, les instituteurs sont appelés. Il y a un certain nombre d'instituteurs qui sont appelés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les écoles sont totalement mobilisées. On est encore une fois dans une ouais. guerre totale. La ville de Nantes est aussi complètement mobilisée. Et les écoles en sont une illustration. Alors les écoles servent de caserne en 1914, on équipe les soldats, certaines écoles sont équipées d'ambulances, parce qu'on accueille des blessés, il y a 985 blessés qui arrivent dès le mois d'août à Nantes. Et donc dans certaines écoles, pas trop éloignées de la gare d'Orléans, on organise des ambulances. Et puis aussi, on héberge les soldats anglais, il y a 130 000 soldats anglais qui passent par Nantes de la fin août 1914 jusqu'au début du mois de novembre. Pourquoi Nantes? Parce qu'on ne peut pas les débarquer dans les ports de la côte de la Manche. Parce
que
les Allemands avancent. Mmh. Et puis, il faut éviter le danger que les villes, les ports soient pris. Donc, il y a 130 000 soldats qui passent par Nantes. Et beaucoup sont hébergés dans des écoles, notamment de Chantenay. Et puis, on recueille aussi des soldats qui fuient les combats. Je pense à des gendarmes, plus d'une centaine de gendarmes qui arrivent à vélo jusqu'à Nantes. On recueille l'état-major du 2e corps d'armée d'Amiens qui loge à Nantes. On accueille des réfugiés aussi de plus en plus nombreux qui fuient les régions de l'Est, du Nord, beaucoup de Belges qui viennent de Namur et Charleroi. Enfin bon.
Et les enfants nantais dans tout ça, alors ils n'ont plus de classe.
Ils n'ont plus de classe parce que les vacances commencent au 1er août. Hein, c'est août-septembre, les vacances à l'époque. Mmh. Et le ministre de l'Instruction publique, qui s'appelle Albert Sarraut, à l'époque, demande aux directeurs et directrices des établissements de garder les enfants. Donc, ils acceptent volontiers. Alors, les écoles servent de garderie, c'est-à-dire que sur les cours de récréation, on a des enfants qui côtoient les soldats, qui font la popote pour leurs camarades. Et puis, à la rentrée, là, ça va poser des problèmes, parce que beaucoup de soldats sont encore présents, ils sont pas tous remontés au front. Hein. Les Anglais, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont là, en septembre, octobre. Donc, on est obligé, quelquefois, de faire la classe 50, 60 et même 100 élèves voilà. dans les logements des directeurs.
Et avec, ou à la cuisine, ou n'importe où, dans n'importe quelle pièce disponible, mais avec, avec des instituteurs qui sont au front.
Oui, donc l'enseignement se féminise beaucoup. Mmh. On utilise beaucoup de femmes, dont des réfugiés d'ailleurs. Il y a sur la couverture du livre, ici, là, cette dame, Madame Joachim, qui est une Belge. Hein, donc on utilise aussi les réfugiés.
Alors ce que j'ai remarqué, ce qui est assez amusant, c'est que au départ, si j'ai bien lu, hein, c'est que l'inspecteur d'académie craignait un petit peu de mettre des garçons avec des institutrices.
Oui, oui, oui.
Et puis tout d'un coup, le charme des femmes a fait que...
Voilà, ça se passe très bien, finalement. Ça se passe très bien. Les femmes font leur travail tout à fait correctement et à la surprise de cet inspecteur.
C'est rassurant pour les Nantais en cette période municipale. Hein.
Exactement.
Et donc finalement, oui, ces enfants également, on va leur demander quand même psychologiquement de soutenir.
On leur demande beaucoup de choses. Alors ce qui est vrai à Nantes, c'est vrai partout en France. On demande aux enfants d'être à la hauteur. Il faut que tout le monde participe à la guerre. Les femmes, les enfants, les vierges, tout le monde doit participer. Et ces enfants doivent être à la hauteur du sacrifice consenti par leur père ou les grands frères qui sont au front. Donc personne n'est épargné. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre totale. Tout le monde est engagé dans la guerre. Et les enfants, comme les adultes.
En lisant ce livre, moi j'ai noté « L'école est une arme de guerre ».
Oui, l'école est effectivement une arme de guerre. Je pense que c'est une croix de transmission entre le pouvoir et la population civile. Comme tout le monde doit être mobilisé, eh bien, les écoles sont en première ligne pour mobiliser la population, puisque les enfants sont chargés notamment de soutenir le moral de leur mère, de la famille.
Globalement,
on répète à la maison l'enseignement du lancement patriotique du maître.
Le père d'un... Voilà, le père d'un gamin qui est à l'école primaire, il est dans les tranchées à ce moment-là.
Voilà, souvent, ils sont dans les tranchées. Et le but, si vous voulez, c'est que la population civile tienne le coup, tienne moralement. Il faut que l'arrière tienne. Et donc, on utilise même les enfants pour cela. Les enfants sont même chargés aussi de récolter l'or, de convaincre les parents de souscrire aux emprunts d'État, parce qu'il faut financer l'effort de guerre. Les enfants eux-mêmes sont mobilisés.
C'est une mobilisation de toute la population. Quoi.
Voilà. Les enfants sont chargés. Il y a d'innombrables journées patriotiques qui sont organisées. Donc, on les lâche dans les rues, deux par deux. Et puis, ils quêtent. Ils donnent des petits drapeaux. Ouais. Ils donnent quelquefois des bouquets de fleurs, des insignes. Ils sont vraiment mobilisés.
Alors, on va passer sur une autre quête. Maintenant, c'est la quête aux informations. Celle-là, elle nous intéresserait plus, Jean-François, celle qui passe carrément par la police, la gendarmerie, par la préfecture. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en permanence, le gouvernement veut connaître l'état d'esprit de la population.
Oui, il y a des enquêtes, effectivement.
Pour agir en fonction de cela. Mm-hmm. Et on voit bien que la police à Nantes est complètement débordée à certains moments. Lorsque je passe cette fois-ci dans le livre numéro 3, hein, puisque c'est un peu 1, 2, 3, 4, hein, tome 1, tome 2, tome 3, la crise de juin 1917, les trains de permissionnaires dans les gares de Nantes et de la Loire inférieure. Et alors là, il y a des descriptions absolument ahurissantes, des difficultés que l'on a pour tenir la foule, et puis du rôle de l'alcool également chez ces permissionnaires qui s'enivrent, quoi, finalement.
Oui, oui. Alors, au mois de juin, il fait très chaud à l'époque, mais il faut savoir qu'on approvisionnait, même dans les tranchées, les soldats en vin et en eau. On consommait beaucoup.
Ça, on le disait à nos élèves, comme des munitionnettes. Hein, faisait quand même partie des cours, ça.
Mais ces soldats-là, Bretons qui reviennent, ils arrivent de Quimper, ils sont partis très tôt le matin, ils arrivent vers 20h, 20h30 à Nantes, hein, dans les trois gares, une gare à Chantenay, une gare à la Bourse, et puis la gare d'Orléans, et à chaque arrêt du train, ben, on descend, et puis on remplit son bidon de pinard, et on boit. Alors, il faut bien replacer ce qui se passe dans les gares, hein, sont véritables émeutes ont lieu dans les gares. On monte sur le toit, on casse les portières, on ameute la foule, mais il y a aussi des réactions dans la foule, notamment des femmes qui poussent les soldats à crier « Ah bah la guerre, vive la révolution et même vive les Boches !»
Ouais.
Vive l'Allemagne,
Oui,
effectivement.
Donc là, on est dans les mutineries, quoi.
Alors là, on est au lendemain des mutineries qui suivent l'offensive du Chemin des Dames. L'offensive du Chemin des Dames, c'est avril 1917.
C'est dramatique.
Alors, ce qui était dramatique, c'est qu'on pensait, on était à peu près certain que ce serait la dernière offensive, que ce serait l'offensive victorieuse. Le général en chef, qui s'appelait Georges Nivelle, avait promis que ce serait l'offensive décisive.
Et c'est les
choses. Et donc là, on est après Verdun et après la Somme, après de véritables massacres.
Et on paye en milliers de morts.
Là, on est dans les centaines de milliers de morts. Mmh. Et eh bien, on s'aperçoit dès la première journée, dès le soir du 16 avril, que c'est un échec. Et au bout de quelques jours, on est déjà à 40 000 morts. L'état-major poursuit l'offensive au mois de mai. Et là, les soldats ne suivent pas. Alors, c'est pas les soldats qui sont en première ligne, mais ce sont ceux qui sont en deuxième ligne, à qui on donne l'ordre de monter en première ligne.
De remplacer
les hommes. Mais ça bien ce qui se passe. Ils savent que c'est l'abattoir. Que c'est pour eux, c'est une condamnation à mort. Donc, ils ne veulent pas monter en ligne. Et donc, ils se révoltent contre la façon de faire la guerre. C'est pas contre la guerre elle-même. On se révolte contre l'état-major, contre les officiers supérieurs qui mènent les hommes à une mort certaine. Mais les deux tiers de l'armée française ont été touchés.
Est-ce que là, on est juste quand on dit que les gars sont en train de se faire tuer et que des généraux sont 50 kilomètres derrière dans un château en train de faire des réceptions et de boire du champagne? Est-ce que c'est vrai?
Oui, je pense que c'est vrai pour les officiers les plus gradés,
officiers
d'état-major. Ça arrive, c'est effectivement. Il y a des officiers supérieurs, il y a un général en particulier, je crois que c'est Bigot, général Bigot, qui a été injurié, molesté par ces hommes. Qui était détesté.
C'est compréhensible, hein, quand on a le sentiment d'avoir un état-major qui est complètement à la masse, qui est anachronique dans son fonctionnement, et qui envoie les hommes à la mort.
Là, il y a des historiens qui critiquent les généraux pour qui ce ne sont pas des héros. Hein. Joffre a été évincé en décembre 1916, avec les honneurs, mais bon. on ne supportait plus les offensives meurtrières. Donc il a été écarté. Bon, il y a des critiques aussi aujourd'hui à l'égard de Foch qui a mené ses hommes dans des offensives désastreuses, qui menaient à rien. Ça a été, comme disaient les soldats, l'abattoir. On a un peu mis à l'écart beaucoup de régiments, dont des régiments bretons qu'on envoie en permission. Alors ils ne se révoltent pas en allant en permission, c'est au retour que ça se passe. C'est au retour. Ils ne veulent pas retourner à l'abattoir. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est quand ils arrivent, on est en 1917, et là, la situation à l'arrière s'est nettement aggravée. La vie devient très, très, très difficile. Et les soldats qui arrivent en permission, qui arrivent du chemin des dames, se rendent compte que leur femme vit mal. Elles travaillent longtemps, longues heures, elles sont épuisées.
Mal payées.
On a commencé à... il devient difficile de pouvoir se nourrir, de pouvoir se chauffer. De pouvoir se chauffer. Les enfants ne vont plus trop à l'école non plus. Les femmes n'ont plus le temps de s'en occuper. Donc beaucoup d'enfants font l'école buissonnière. Certains commettent des larcins, des vols. Les journaux en témoignent en 1917. Là, on est dans une situation qui est très difficile. Le sucre est rationné à Nantes depuis le mois de février 1917. Après, ça va être on a institué la carte du charbon en novembre 1917. Ce sera la carte de pain. Donc la population est rationnée. La vie devient très, très difficile. Et il y a des grèves. En 1917, à Nantes, il y a des grèves qui touchent même les usines de munitions pendant 2 ou 3 jours au mois de juillet 1917. La prostitution est en augmentation. L'alcoolisme est en augmentation.
C'est toute une société.
Donc un tableau qui effraie les soldats.
Ouais.
Et il lance des tracts sur lesquels est inscrit la phrase « Nos femmes ont des droits ». Femmes ont des droits. Donc on se rend compte, ces soldats se rendent compte que finalement l'horizon est bouché, quoi. On est en 1917, il n'y a plus de perspective d'avenir positif.
Alors on va faire une rupture parce qu'on va arriver maintenant, il faut finir. On dirait, comme je le dis, on pourrait rester des heures. Et on arrive avec les Américains qui arrivent justement en 1910. Alors comment ils reçu cette arrivée des... Parce que nous, avec le recul, on se dit, les mecs, ils ont dit, chouette, les Américains arrivent, on va battre les Allemands. Et finalement, c'est pas ça.
C'est pas ça. Non, effectivement. Les Américains arrivent le 26 juin 1917 à Nantes.
Alors nous, ça nous touche de près, Saint-Nazaire, Nantes.
Oui, voilà. Et moi, je pense que, effectivement, les autorités, la municipalité a très bien accueilli les Américains. Mais la population est inquiète. Pour plusieurs raisons. On ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de ces Américains. Certains disent que les Américains vont s'installer définitivement. D'autre part, il y a ce qu'on appelle les affectés spéciaux, c'est-à-dire des soldats qui ont été renvoyés à l'arrière, parce que ce sont des techniciens, des ouvriers spécialisés qui travaillent dans les usines d'armement, donc c'est des gens importants. Il y en a 8000 à Nantes, et une partie de la population est persuadée qu'on va renvoyer ces affectés spéciaux au front et qui vont être remplacés par les Américains. Ouais. Et puis un autre élément, c'est que le service militaire n'existait pas aux États-Unis lorsque la guerre a été déclarée. La conscription n'a été engagée, n'a été signée qu'au mois de mai. Donc ces soldats qui arrivent ne sont pas préparés du tout à faire la guerre. Et la population civile pense que... l'intérêt de ces soldats est tout à fait relatif. Et même le temps qu'ils soient formés, la guerre sera soit terminée, soit ça va être une occasion de prolonger la guerre.
Daniel ?
On arrive à l'issue de cette émission. Je crois qu'on n'aura même pas trop le temps de présenter d'autres livres. On le fera peut-être le mois prochain.
On le fera le mois prochain.
Je remercie Jean-François Pasque et Yves Jaouen d'avoir été parmi nous. Je crois que c'est une très bonne émission. Deux registres différents, mais on a été très, très attentifs à ce que vous nous avez dit. Juste un mot peut-être pour... puisque Jean-François y sera le mois prochain, c'est le Festival Mauve en Noir. C'est le 12 et 13 avril pour tous les amateurs de littérature noire.
Tout à fait. Donc, avec d'autres Nantais comme Emmanuel Petit ou Sylvain Forge, Hervé Sarr. Voilà.
Je remercie nos invités. Merci Étienne. Et on remercie également Julien qui a réalisé cette émission. Puis on se dit très bientôt au mois prochain avec de nouveaux auteurs.
Et un service de presse.
Et un service de presse cette fois. Mais aujourd'hui, c'était assez passionnant. Vous laissez le temps à nos invités de pouvoir s'exprimer.
Tout à fait.